Chapitre 11. Nina.
Tu m'expliques ce qu'on fait là ?
Je me tiens devant le portail du collège-lycée Camissé, rue de l'école. Jour de rentrée. On est venu à pied avec Nina. Le bahut est à moins de 20 minutes de la prairie. Je pense que les autres élèves aussi doivent habiter dans le quartier. Enfin, dans le coin plutôt, parce que les alentours ne ressemblent pas trop à ce que j'appelle un quartier. Ici, pas de tour, pas d'arrêt de bus tagué, pas de MJC délabré, pas d'arabe pour nous siffler, Nina et moi. Rue de l'école, c'est, disons, beaucoup moins coloré. Ou alors des couleurs pastel, feuilles d'automne, véranis, rose dragée, du genre de celles imprimées sur les écharpes de soie et les jupes plissées que portent les collégiennes. Tu hallucines, Nina.
Attends, ma Follette, on va pas entrer là ?
Tu ne prends même pas la peine de chuchoter à mon oreille.
Regarde ! Rien que le sac en cuir que l'autre pouf porte sur son dos, il vaut plus que tout mon budget de vêture depuis que je suis née.
Tu portes comme moi un jean et un pull. On l'a échappé belle. Béné a insisté pour qu'on ne mette pas nos pantalons troués et nos t-shirts Motorhead. Devant le collège-lycée Camissé, ce sont les retrouvailles enthousiastes de la rentrée. On s'embrasse, on trépigne, on crie, on s'extasie.
Merci pour ta carte postale, Marie-Christal. Ouah, comme t'es bronzée, mon Apolline. T'es allée où cet été, Maurice ? La chance, moi je suis restée coincée en Corse, sur un voilier.
Ma pauvre Nina, on est comme deux extraterrestres. Tu ne peux pas te retenir, tu m'attrapes par les épaules.
Et toi, mon Ophélie, t'es partie dans le sud aussi ? Sur la rive gauche de la Seine ? T'as même poussé jusqu'à Saint-Étienne-de-Rouvray, jusqu'à l'immeuble Sorano dans le Château Blanc. Un vrai safari. T'as même vu des noirs, j'y crois pas, ma chérie.
Personne n'a entendu. Personne ne fait attention à nous. Le bruit des scooters et des moteurs couvre tout. Je crois qu'on est les seuls à être venus avec nos baskets. Toutes les autres se font déposer. Dans l'étroite rue de l'école, entre les façades à pans de bois, on assiste à un vrai défilé de Mercedes et d'Audi pour les papas pressés, de Mini Cooper et d'Auto Bianchi pour les mamans stressées. Tu me tires par le bras, direction opposée au portail d'entrée.
Ok, Follette, on a bien rigolé. Maintenant, faut qu'on se tire avant qu'ils se réunissent dans la cour pour chanter l'Ave Maria. J'ai pas révisé les paroles et... Attends ! Attends quoi ? Bouge ! Planque-moi !
Sans réfléchir, tu te redresses et je m'accroupis derrière toi. C'est ce que j'aime tellement chez toi, Nina. Tu ne discutes jamais quand il s'agit de faire une connerie. Toi, la rebelle, quand il y a urgence, tu obéis. Une Mercedes vient de se garer à cheval sur le trottoir. Une gamine de notre âge en est descendue, visage bronzé, longs cheveux noirs retenus par un ruban mauve, robe cintrée assortie. Elle s'apprête elle aussi à sprinter vers la cour bitumée de Camissé, histoire de ne pas rater le début des prières, quand la vitre électrique du conducteur s'abaisse.
« Tu ne fais pas un bisou à ton papa ?»
L'enrubanné se penche, le papa sort la tête, quatre bises claquent. Devant moi, Nina tangue comme une quille qui ne veut pas finir en strike. Tu grognes dans un dialecte que moi seule peux comprendre.
« Putain de sa mère qui pisse au lit, me dis pas que c'est lui !»
Devant nous, les effusions de la fille et de son père ne traînent pas.
Bonne journée, papa.
Bonne rentrée, Consuelo.
Heureusement que j'ai fait Nina première langue.
Par les tétons de la Vierge Marie, c'est lui !
Dès que la Mercedes a disparu au bout de la rue et que Consuelo a été happé par une bande de copines, tout aussi bronzées et déchaînées, tu te tournes vers moi.
C'est évident, j'en suis sûre. Et cette pétasse, c'est sa fille. Espère pas me faire avaler que c'est le hasard qui fait mal les choses. Vas-y, balance, explique.
Plus tard, Nina, plus tard. Faut qu'on y aille ou on va rater l'Ave Maria. Tu as été la première à courir vers la sortie dès que la cloche a sonné. Oui, à Camissé, ils indiquent encore la fin des cours avec une vraie cloche, comme au Moyen-Âge.
Je tiendrai pas une semaine. Je te préviens, Follette, je tiendrai même pas une journée de plus.
Tu as allumé ta Marlboro juste après être sortie, pour que tout le monde te voie, les papas, les mamans, les nounous, les lycéens et les collégiens. Ça n'a pas manqué. Tout le monde t'a regardé de travers, même si t'as tout ce qu'il faut ou il faut pour qu'on te prenne pour une élève de première. Je souffle sur la fumée pour la disperser. N'exagère pas, Nina. On est à peine 22 par classe. Les profs nous parlent comme si on possédait la carte gold de l'établissement. La moitié des élèves sont des fils de médecins ou d'avocats qui ont encore moins envie de bosser que nous. Il y a des crevettes fraîches, du poulet au curry et de l'ananas en carpaccio à la cantine. Et on n'a même pas récité l'Ave Maria. Ok, c'est Dynasty Academy. Maintenant, explique-moi ce qu'on fait là. J'attends que l'essaim de collégiens qui bourdonnent autour de nous se disperse un peu. Tu me proposes une cigarette dont je ne veux pas. Je dois la jouer discrète. J'aperçois Consuelo sur le trottoir d'en face. Elle s'éloigne, entourée d'une bande de filles de notre classe. Pas de Mercedes en vue. Vidame ne viendra pas la chercher ce soir. Tant mieux. Je ne crois pas qu'il puisse me reconnaître. J'avais 7 ans la dernière fois où il m'a rencontrée, mais on ne sait jamais. Au croisement de la rue de l'école et de la rue Gantry, Consuelo claque la bise à un type frisé, très maigre, dans les 17 ans. Je suppose que ça doit être Antoine, son grand frère. Tu profites que j'ai le dos tourné pour souffler ton nuage de fumée au nez du pion qui garde la sortie de Camissé. Un petit vieux avec une barbe à la corbier du club Dorothée. Malgré son look de fumeur de pipe, ça a l'air de l'indisposer. T'écrases le mégot sous ta basket.
De toute façon, Follette, dès qu'on va rentrer, Béné va flairer l'arnaque. T'as vu la tonne de paperasse à signer ? Ça va pas gober une seconde qu'on ait pu choisir option mandarin, grec ancien, violon et danse de salon.
Corbier regarde d'un air outré le mégot. Je lui offre mon sourire le plus désolé tout en t'expliquant.
Sauf que j'ai pensé à tout, Manina. Béné prend son service que ce soir à 22h. Quand on va débarquer à la petite maison dans la prairie, comme chaque année, c'est une stagiaire qui connaît même pas notre prénom qui va signer les papiers.
Tu grimaces, mais tu sais bien que j'ai raison.
D'accord, grosse maligne, je suis piégée. Alors vas-y, éclaire-moi. Qu'est-ce qu'on fout chez les aristos ?
Je te demande de tenir 10 semaines, Nina. Pas une de plus.
Il se passe quoi dans 10 semaines ?
Dans 10 semaines, le samedi 11 novembre, très exactement, Consuelo fêtera son 13e anniversaire.
Qui ça ?
Consuelo, la fille de Richard Vidame. Elle est dans notre classe, au cas où tu l'aurais pas remarqué.
Non, désolée, je suis plutôt maté les 3 redoublants mignons du fond.
Ok, on est dans la classe de ta commande, Chéro. Et alors ?
Et alors, c'est là que tu rentres en action.
En action ? Pour son anniversaire ?
C'est quoi le plan ? Monter une cagnotte pour lui offrir un saut en parachute ? On ramène tous une bougie avant la bataille de Crème Chantilly ?
C'est presque ça, Manina. Je te regarde droit dans les yeux. Je peux compter sur toi ?
Tu me fais peur, Follette. Tu comptes sur moi pour quoi ?
Nous faire inviter. Une seconde, tu en as le souffle coupé. Histoire de reprendre ta respiration, tu t'allumes une nouvelle Marlboro, juste au moment où passent les 3 garçons les moins pressés de Camissé. Jean Levis, veste de cuir chevignon, coupe mulet. Il te regarde avec des yeux de loup affamé. Enfin, de louveteau plutôt. D'ailleurs, ils doivent l'être pour de vrai. Scouts depuis toujours, avec leur totem tatoué, castor frimeur, canard flemmard ou panda sournois. N'empêche, ils ont senti la chair fraîche. Je les vois déjà s'éloigner à regret. Je les entends ricaner et je devine l'unique sujet de conversation de leur rentrée. Elle est pas mal, la nouvelle, avec son look rebelle. Et oser cloper devant Camissé, waouh, elle a des couilles, en plus d'avoir des gros nénés. Pauvre petit fauve aux dents de lait. Un simple bruit de peau d'échappement crevé suffit à disperser la meute. Un 103 Peugeot descend à contresens la rue de l'école. Steve termine les derniers mètres en roulant sur le trottoir. Corbier va en faire une attaque. Steve adosse sa mobylette contre la poubelle, sa béquille ne fonctionne plus. Il nous lance.
Hé, les filles, vous faites quoi ? Tout se passe bien chez les Bourges ?
Ton Steve Austin a une allure de rescapé d'un crash qui n'aurait pas eu les 3 milliards pour se payer une chirurgie esthétique bionique. Il lui manque 2 incisives, la paupière de son œil droit est aussi gonflée qu'une coquille d'œuf, et sa joue gauche paraît à l'inverse avoir été aplatie au fer à repasser. Plus affreux que jamais. Je me demande comment tu peux t'être amourachée de lui. Même si on a rigolé pendant des nuits sur le dernier exploit de ton Stevie. C'était pendant ton camp, en Vendée, cet été, dans le seul camping de la côte qui accepte les groupes de cas sociaux. Ton groupe cohabitait avec une bande de la Courneuve, des grands blacks qui tous flashaient sur toi, la reine de la piscine de Roploplo les flots. Et toi qu'en rajoutais des tonnes au téléphone, quand chaque soir Steve t'appelait. Ils tournent autour de moi comme des moustiques, mon Stevie, ou des mouches tsetse. Je vais vraiment finir par choper la fièvre jaune ou noire. Ni une ni deux, Stevie est parti sur sa mob, 400 kilomètres. Il a mis 11 heures pour rallier ton camping, et quand il est arrivé, à peine retiré son casque, il a touché le marteau de Thor autour de son cou pour s'imprégner de sa force et a filé direct à la piscine pour insulter les blacks. Ils ont mis une minute à comprendre qui était ce roquet, puis la bande de molosses de Seine-Saint-Denis, qui faisaient tous trois têtes de plus que lui, s'est mise à le tabasser pour le calmer. Tu l'as récupéré en pièces détachées. Il est resté une heure allongé sur un transat de la piscine, puis s'est relevé, a brandi le poing en direction des blacks, en les prévenant que si l'un d'eux s'approchait à moins de 10 mètres de toi, il revenait. Puis il est reparti sur sa bécane. 11 heures de route dans l'autre sens. Il devait rendre la mob à son oncle le lendemain. Je comprends, Nina. Jamais tu ne trouveras un amoureux plus dévoué que ton Stevie. Ni plus débrouillard. Sans lui, jamais je n'aurais pu en apprendre autant sur la famille Vidame. Mais reconnais que ton chevalier servant, il ressemble plus à Frankenstein qu'à D'Artagnan. On n'est plus que tous les trois devant le portail du collège. Même Corby a disparu. Stevie regarde la plaque gravée sur la façade du bahut, se racle la gorge et demande
« Vous savez qui était Camissé ?»
Aucune idée. Je réponds sans savoir pourquoi avec agressivité. « Parce que toi, tu sais ?» Tu te marres, Nina. Tu connais déjà son tour de magie.
« Non ?»
fait Stevie.
Mais je peux demander à mon cerveau portable.
Devant mes yeux ébahis, il ouvre son sac à dos et sort un énorme livre. Quid 1989. Il le feuillette à toute vitesse et me sort moins de 20 secondes après.
Camissé, écrivain français né à Rouen le 26 octobre 1878 et mort à Paris le 12 juin 1959.
J'y crois pas. Ce malade trimballe sur lui une encyclopédie qui doit peser au moins 10 kilos.
Tout ce que j'ai pas dans mon cerveau,
m'explique Steve en rangeant son livre.
Je l'ai dans le sac à dos. Comme ça, je garde mes neurones pour réfléchir.
Tu te marres, Nina. Tu regardes ton Stevie avec des yeux de Vierge Marie devant Jésus-Christ et tu dis « S'ils inventaient des rallonges assez longues, tu trimballerais aussi un ordinateur sur toi ?»«
Ça viendra !»
assure Steve.
« Ça viendra, ma chérie !»
Il se racle une nouvelle fois la gorge, range son pavé de 1863 pages et t'embrasse. Je détourne les yeux pour ne pas voir ta langue se glisser comme une anguille dans le trou entre ses incisives. Vous dormez pas, les filles ?
Béné vient de prendre son service. Aujourd'hui, elle travaille de 22h à 8h du matin. Des horaires à la con, comme Béné aime le rappeler quand elle est en rogne contre la terre entière, les institutions, l'aide sociale à l'enfance, les chefs de service, les psys, brocolis. Sauf que ce soir, Béné a l'air apaisé.
Alors, cette première journée?
Tu grimpes dans mon lit, Manina. On se retrouve toutes les deux pile à la hauteur de Béné. Je m'apprête à lui répondre, mais tu dégaines la première.
Tout s'est déroulé miraculeusement sous la surveillance du bon Dieu. Demain matin, avant de partir, faudra que tu nous fasses réciter l'Ave Maria et qu'on installe des crucifix au-dessus du lit aussi.
Béné, je crois qu'elle aime encore moins les curés que les psys, les chefs de service et brocolis. J'essaye de trouver des mots pour relativiser ton récit de la journée, mais tu enchaînes.
Et il faudra changer le menu de la petite maison dans la prairie aussi. Maintenant, on veut du poulet au curry, du saumon, des fruits exotiques, comme au bahut. Et si tu pouvais demander à Brocoli de changer nos matelas, je dis pas ça pour moi, hein, mais pour la princesse au petit pois qui dort au-dessus de moi.
Je ris toute seule. C'est une de nos plus vieilles blagues.
conte numéro 7 de mon livre Rouge et Or. La princesse au petit pois a la peau tellement sensible qu'elle est capable de sentir un petit pois posé sous 20 matelas et 20 édredons. Béné rit aussi, sans rien promettre.
Je suis contente pour vous, les filles. Même si je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez voulu être scolarisée à Camissé, et encore moins ce que vous avez derrière la tête.
Rien, rien de rien. Je me prépare à le jurer à Béné, mais une nouvelle fois, comme si tu avais décidé de ne pas me laisser parler, tu lances avant que j'aie pu ouvrir la bouche.
Béné, question à te poser.
D'entrée, je me méfie.
Vas-y Nina, je t'écoute.
T'es éduque depuis combien de temps ?
10 ans, dont 7 à la prairie.
Sans prévenir, tu me pinces sournoisement dans le creux des hanches et tu balances en même temps que j'étouffe un cri.
Alors, tu dois connaître Richard Vidame ?
Je reste sans réaction, électrocutée.
Évidemment,
répond Béné.
C'est le grand patron du secteur social dans le département. Tout le monde le connaît.
Je me retiens difficilement de t'étrangler, de t'étouffer avec un des oreillers et surtout de montrer ma fureur à Béné. Tu continues comme si de rien n'était.
Parle-moi de lui.
Pourquoi ? Qu'est-ce que tu lui veux ?
Et voilà, je te maudis, Nina. Tu vas tout faire foirer. Béné ignore que Vidame était le délégué à la tutelle de mes parents. Du moins, c'est ce que j'ai toujours pensé. Comment aurait-elle fait le rapprochement ? Sauf que maintenant... Tu réponds avec le plus de naturel possible.
Sa fille est dans notre classe au collège.
Une bouffée de chaleur envahit mon cerveau. T'avais préparé ton coup. Je te déteste quand même, mais je dois admettre que c'est bien joué. Dans la pénombre de la chambre, on se rend toutes les deux compte que Béné sourit. 1000 questions brûlent mes lèvres, mais je te laisse gérer.
Pourquoi tu souris, Béné ?
Rien. Juste l'idée que Vidame mette sa fille dans l'établissement le plus bourge et le plus cateau de toute l'agglo.
Béné ne dit rien de plus. T'insistes avec toute la diplomatie dont t'es capable.
Vas-y, développe.
Désolée, ça vous regarde pas.
T'exploses d'une colère dont je devine que chaque mot a été calculé.
Comment ça nous regarde pas ? On n'est pas les premières concernées par les politiques sociales du département. Et t'es pas Béné la Rouge ? L'éduc connu jusqu'au ministère pour son franc-parler ?
Béné hésite un peu, mais la tentation est trop grande et son honneur de grande gueule est en jeu.
Ok. Après tout, y a rien de secret. Quel Vidame veux-tu connaître ? Celui d'avant ou celui d'après ?
Je dresse l'oreille.
Si on peut avoir droit aux deux...
T'auras le droit à un immense bisou, Manina. T'es une génie. Jamais je n'aurais osé questionner Béné.
J'ai bien connu Vidame quand j'ai débuté. Il avait quoi, 10 ans de plus que moi ? Il possédait déjà une sacrée réputation. Gros bosseur, motivé, de toutes les réunions, formations et manifestations. Du genre à ne pas hésiter à l'ouvrir devant les patrons. Beau parleur et surtout beau gosse. Le plus canon de tous les travailleurs sociaux, et il se gênait pas pour en profiter. La moitié des collègues de sa génération y sont passés, à ce qui paraît.
Même toi ?
Béné balait la réflexion de Nina d'un revers de main.
À l'époque, j'étais un bébé.
J'en profite pour analyser les informations que Béné vient de me fournir. Une femme attendait Vidame dans sa voiture, le soir où maman s'est envolée. Une femme dont je n'ai pas vu le visage, mais que j'avais cru avoir déjà vue. Qui était-elle ? Pas sa femme, j'en ai toujours été persuadée. Sa maîtresse ? L'une de ses maîtresses ? Comment savoir laquelle ? Tu sembles attendre que j'ai fini de réfléchir pour continuer.
Ok. Et le Vidame d'après ?
Béné s'appuie contre la fenêtre et soupire. Elle paraît hésiter un peu, puis se lance, comme si tout balancer la soulageait.
Côté cœur, d'après les rumeurs, le beau Richard s'est calmé. Très exactement depuis qu'il s'est marié avec Rosanna d'Ozouville, une fille d'une grande famille rouennaise, genre plein aux as. Elle élève des chats angora, je crois. Ce mariage, ça a été le tremplin pour lui. En quelques années, il a viré sa cutie, comme on dit. Il est passé du côté de ceux qui tirent les ficelles, qui décident, qui déjeunent avec les élus, qui tiennent le carnet de chèques des mécènes. Il est grimpé vite, très vite. et je peux t'assurer que tous ceux qui lui ont fait la courte échelle ou tendu la main sont restés en bas pendant que lui s'élevait. Richard Vidame savait où il voulait arriver.
Je bois chaque mot de Béné comme une pleine marmite de potions magiques. Tout ce qu'elle m'apprend, je m'en doutais. Richard Vidame est un salaud, une ordure qui n'hésite pas à écraser les autres, à les sacrifier. Il a construit sa carrière sur un mensonge. Un parasite que j'écraserai.
Allez, conclut Béné. Assez causé. Demain, faut que vous soyez à la hauteur pour porter haut les couleurs de la prairie chez les curés de Camisé. Et je dois te dire aussi, Follette, ton papa continue de harceler la juge des enfants et Boccolini. Ils veulent monter un plan ensemble, organiser vos retrouvailles un après-midi, dans un lieu qui pourrait te donner envie de dire oui. Ils pensent à la foire Saint-Romain. Je t'assure que je n'y suis pour rien.
Est-ce qu'elle me voit grimacer sous les draps? Personne n'ajoute rien. On s'embrasse. Juste avant d'éteindre la lumière, elle dépose une enveloppe à mon chevet.
Pour toi, Follette. Encore du courrier.
Dès que Béné est sorti, je me précipite sur l'enveloppe. Je reconnais l'écriture de Lazare. Mais avant même que j'aie le temps de la déchirer, j'entends un crépitement contre la fenêtre de notre chambre. Un tir de mitraillette. On met 2 secondes à comprendre. Quelqu'un dans la rue s'amuse à nous jeter des gravillons. On se précipite, on ouvre la fenêtre, on s'apprête à balancer notre plus belle brochette de jurons. Mais au moment où l'on se penche, nos insultes restent coincées dans notre gorge. J'y crois pas. C'est Steve. Il a appuyé sa mobylette contre le mur. Il a dû la pousser ou pédaler jusque sous notre fenêtre pour que l'on n'entende pas son pot d'échappement crever. Il lève vers nous sa tête cabossée.
Ça va, les filles ?
Et sans attendre des réponses, comme un magicien qui va réaliser un tour de magie, il claque des doigts. L'unique phare de sa mobylette s'allume, éclairant le trottoir. Steve se tient droit dans le halo, ouvre son quid, sans doute à la page chef-d'œuvre de la poésie romantique, et déclame
« Nina, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose, sa robe de pourpre au soleil, et son teint au vôtre pareil. »